Talim.
Talim.
C'est dans cette tension entre la fluidité d'une langue, la mobilité d'une langue,
Talim.
Et puis les différences de statut qu'elle traverse en tant que langue véhiculaire.
Et peut-être que ce qu'on voit le plus au théâtre vient de l'oreille. Le théâtre n'est pas un art visuel, c'est un art de l'imaginaire.
Talim. S'anime.
Entre 1939 et 1949, le cinéma soviétique vit une transformation profonde, secouée par la guerre et ses conséquences. Ce n'est pas seulement un cinéma qui raconte la guerre, mais un cinéma pris dans la guerre, entre évacuation de studios, pénurie, propagande, mais aussi la créativité d'un certain nombre de cinéastes et d'artistes. C'est un art en tension entre contrôle politique strict et expression artistique. Bonjour et bienvenue sur Talim s'anime, le podcast du laboratoire Talim. Je suis Peggy Cardon et je reçois aujourd'hui Valérie Posner. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS à Talim. Vous avez dirigé à deux reprises le Centre d'études franco-russes de Moscou, le CEFR, que vous avez dû quitter en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Vous êtes spécialiste reconnue de l'histoire du cinéma russe et soviétique. Aujourd'hui, vous êtes venu nous parler du volume « Le cinéma soviétique en guerre 1939-1949 » que vous avez co-dirigé avec votre collègue Alexandre Zumpf, qui vient de paraître aux éditions AFRHC, Association française de la recherche sur l'histoire du cinéma de l'Institut national de l'histoire de l'art. Pouvez-vous nous dire d'où vient l'idée de ce volume collectif, son point de départ ?
Oui, bien sûr. Au départ, c'était une ANR, projet soutenu par l'Agence nationale de la recherche, coordonné ensemble avec Alexandre Zumpf, professeur à l'Université de Strasbourg. Et elle s'est achevée fin 2016. Donc ce volume vient longtemps après. Cette ANR a été marquée par plusieurs réalisations, dont un volume en russe, paru en 2018, un numéro de la revue en ligne Conserverie mémorielle et une exposition qui a fait un peu de bruit à l'époque et s'est tenue en 2015 au Mémorial de la Shoah. Ce volume vient clore cette séquence et faire un peu le point sur ce que nous avons appris durant ces années de travail avec tout un collectif de chercheuses et de chercheurs.
Pourquoi avoir élargi la période de l'étude de la décennie 39-49 et ne pas finalement se limiter aux années strictes de la Seconde Guerre mondiale ?
Il est vrai que pour l'URSS, la guerre, c'est la Grande Guerre patriotique. Le terme est de plus en plus instrumentalisé et la période est instrumentalisée par le régime au pouvoir en Russie. Et elle se limite à la période 41-45. Or, pour les hostilités, la séquence véritablement de conflits armés commence en 1939, à partir de la signature du pacte germano-soviétique et l'occupation successive d'une partie de la Pologne, des Pays-Bas et d'une partie des territoires de la Roumanie. Donc, il y a un conflit en Extrême-Orient soviétique. C'est l'ensemble de cette séquence qu'il faut considérer, d'une part, et d'autre part, les conséquences de la guerre. Les suites immédiates vont jusqu'en 1949 avec la soviétisation partielle d'une partie de l'Europe centrale.
C'est ça, une importance finalement des avant et après-guerre qui, visiblement, va vous amener à parler plutôt de cinéma en guerre que de cinéma de guerre dans ce volume. Quelle est la différence ?
Le cinéma de guerre serait uniquement l'ensemble des films montrant la guerre, alors que pour nous, il était important de montrer le cinéma en tant que secteur industriel et ses personnels, ses studios vivent durant cette longue période. Les films ne constitue qu'une partie de notre objet de recherche.
Quels sont les autres objets de recherche ?
Alors, les autres objets de recherche, c'était justement qu'est-ce qui se passe à partir du moment de l'annexion de ces nouveaux territoires avec les structures cinématographiques de production et de distribution en place. Comment sont-elles soviétisées ? Et pour certaines, elles vont être soviétisées, puis germanisées, puis de nouveau soviétisées au cours de cette période. Par ailleurs, voilà, les studios, les grands studios qui sont menacés par l'avancée très rapide des troupes ennemies vont être obligés de se repositionner et le choix est fait d'envoyer la majorité des grands studios en Asie centrale. Donc cette période de l'évacuation, qui n'est pas très longue, mais qui constitue vraiment un moment de rupture et de reconfiguration, une césure très importante dans l'histoire du cinéma en URSS. Et par ailleurs, il y a toute une dimension qui nous importait de l'histoire technique, mais aussi de l'histoire de la réception, puisque ce sont des films qui sont vus par des millions de spectateurs, ces millions s'ajoutant à la sortie de guerre, aux autres millions des spectateurs d'Allemagne, de Tchécoslovaquie, de Pologne, etc., qui vont être, eux, en quelque sorte, et de plus en plus, forcés de voir ces films soviétiques.
Vous parlez donc de l'évacuation des studios de Alma-Ata, vous en consacrez un chapitre. Est-ce que vous pourriez revenir sur l'objet de ce chapitre, sur le fait que effectivement le déplacement des studios rend les conditions difficiles des techniciens qui sont sur place, sur les contraintes matérielles que vous avez évoquées. Qu'est-ce que cela a représenté finalement pour le cinéma soviétique, cette évacuation ?
Alors, c'était une période qui était, je dirais, sous-travaillée par l'historiographie pour une simple raison de manque d'archives. Je me suis rendue en 2015 pour la première fois à Almaty et j'ai découvert en fait des tas de dossiers qui n'avaient pratiquement pas été ouverts depuis la période. À cela s'ajoutaient des archives du parti qui étaient devenues tout à fait consultables. Et je me suis plongée dans cette documentation qui complétait véritablement les dossiers que j'avais pu voir à Moscou. L'ensemble donne un éclairage aussi bien sur la production de certains films que sur des questions vraiment très matérielles, hein, des difficultés pour le personnel évacué, sur les conditions de logement. On se rend compte avec les archives kazakhstanaises du parti, mais aussi du gouvernement, qu'il s'agit véritablement d'une rencontre qui n'est pas facile entre les évacués et le personnel local. À Almaty particulièrement, parce que d'autres studios ont été envoyés, par exemple, à Tashkent. À Tashkent, il y avait déjà un studio. Donc, les conditions n'étaient pas du tout les mêmes. À Almaty, il n'y avait rien. Où, disons, il y avait une petite production de bandes d'actualité, ce qui n'était vraiment pas grand-chose. Là arrivent vraiment des grands professionnels. Donc, il y a eu des adaptations nécessaires qui n'ont pas été simples. Et en même temps, une espèce de marchandage mis en place entre les autorités locales de la République du Kazakhstan qui comptaient sur la présence de ces équipes pour obtenir véritablement et pouvoir déployer un studio qui allait faire des films pour le Kazakhstan et donnant une image du Kazakhstan, de ses populations, de son histoire, de sa culture.
Ce n'était pas l'objectif premier de cette...
Évidemment que ce n'était pas l'objectif premier, puisque pour la direction du cinéma et pour Moscou en général, et même Moscou évacué à Kouibichev ou à Novosibirsk, l'idée était de conserver Mosfilm et Lenfilm, les deux grands studios qui avaient été évacués à Almaty, pour faire des films de portée nationale, voire internationale.
D'accord. La diversité des genres que nous découvrons au travers du volume, l'héroïsme, évidemment le film de propagande, les mélodrames et les films trophées aussi. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette distinction entre ces différents genres produits pendant la guerre ?
Alors, on va mettre de côté les films trophées puisque ce sont les films que les soviétiques saisissent dans les territoires qu'ils occupent, et particulièrement la saisie du Reichsfilmarchiv, qui était issue d'ailleurs en partie de spoliation effectuée par les Allemands. Et donc ça, c'est un lot de films qui va nourrir les archives du film à la toute fin de la guerre, 45-46. Mais pour revenir à la diversité des genres, eh bien, on se trouve, grosso modo, face à plusieurs impératifs. D'une part, quand la guerre véritablement commence en 41, eh bien là, il faut réagir très rapidement et mettre sur les écrans des films qui vont aider à mobiliser la population. Et là est inventé un format avec une grande diversité de genres, qui est un format court, réuni en plusieurs films courts constituant en quelque sorte un programme. Or, particulièrement, le court-métrage de fiction n'est pas du tout un genre qui a été pratiqué par les cinéastes soviétiques. C'est vraiment tout nouveau, c'est inventé en quelque sorte un peu dans l'urgence des premiers jours de la guerre, mis en place avec beaucoup de réactivité par la direction des studios et la direction du cinéma. Et là, ce n'est pas un genre qui dure très longtemps, disons ça va s'épuiser fin 42, début 43, c'est terminé. Mais il y a certains films très différents, les uns, je dirais, assez violents, les autres vraiment de propagande, les troisièmes avec vraiment une volonté mélodramatique. Et là, il y a quelque chose qui est dans ces recueils de combats, on les appelle les ciné-recueils de combats, qui renouvellent en quelque sorte l'écriture dramaturgique et cinématographique à laquelle nous avaient habitués les années 30, disons.
Oui. Et ils montrent quand même que les films sont vraiment en phase avec l'actualité.
Absolument. Et puis, l'autre chose, c'est évidemment la volonté des cinéastes soviétiques, je veux dire, ce n'est pas forcément un ordre venu directement du Kremlin, qui d'ailleurs, à cette époque de la guerre à haute intensité, disons, n'est pas focalisé forcément sur le cinéma. C'est un retour à la réalité de la violence à l'écran. Les films des années 30, qui envisageaient la guerre à venir, avait tendance quand même à euphémiser beaucoup les choses. On retrouvera un petit peu cette même tendance dans les années post-guerre. Mais pendant la guerre, et particulièrement à partir de 42-43, le spectateur soviétique voit des choses qui sont d'une très grande violence,
cruauté.
Très grande cruauté, oui, oui.
Le 100% dont il est
le
question.
100, oui, exactement.
100
le 100 SANG, oui, 100%. Il y a vraiment une forme de brutalisation de l'image. Ceci dit, toujours en parlant des genres, il y a toute une part de la production qui sont des films quand même plutôt de distraction. Il faut aussi répondre à une demande des spectateurs de voir autre chose que l'horreur qu'ils vivent chaque jour dans leur vie.
Mystery wrapped in an enigma, as Russia has been called, is shown in all its majestic grandeur in Ivan the Terrible. Sergei Eisenstein's monumental work had been banned until recently. Ivan the Terrible pursued his dream. A Russia freed from the enslavement of the selfish boyars. The grandiose settings, the raging intrigues, the fierce battles form the backdrop for the sweeping drama Eisenstein has fashioned with a power that has rarely been equaled.
Nous allons évidemment revenir sur Ivan le Terrible d'Eisenstein. Pourquoi ce film est-il si emblématique du cinéma soviétique ?
Alors, c'est la grande production de la période de la guerre. Il y a tout un temps de maturation du travail de Eisenstein qui lui-même est évacué à Almaty, qui prépare ce film avec un tout petit nombre de personnes. Dessine énormément, réécrit le scénario, etc., etc. Le tournage va commencer à Almaty. Sauf que c'est un film avec une telle profusion de décors, d'accessoires, de costumes, que c'est un énorme défi pour tout le cinéma soviétique. Ce qu'on ne savait pas du tout, c'était véritablement les conditions matérielles et le défi que ça avait été de produire. Or, ce qu'on apprend, c'est que Eisenstein, quand il entre en production, va occuper l'ensemble des moyens du studio, ce qui va forcer et accélérer le retour des autres équipes à Moscou, ensuite à Leningrad. Mais en 1944, il rentre, le film n'est pas terminé. Et donc, il va achever le tournage à Mosfilm, dans un Mosfilm qui est en très mauvais état, avec une partie qui sera tournée en couleur parce que de la pellicule Agfa a été rapportée de Berlin et sera ensuite développée et tirée à Berlin et insérée dans le film. Enfin bon, l'idée de ces deux parties qu'on pense aujourd'hui comme donnant deux éclairages du personnage, oui, etc., etc. Ça, ce sont des choses qui ont été décidées in extremis, vraiment sur l'instant.
Mais on apprend tout de même d'alors que la deuxième partie du film est controversée.
Elle est interdite.
Et elle est interdite.
À cause, justement, de l'image du personnage qui est montré trop comme un tyran, alors qu'il devrait être un héros positif, n'est-ce pas? Mais disons que c'est toute cette matérialité de la production qui est, d'une manière générale, très peu et mal envisagée pour l'histoire du cinéma soviétique.
Revenons sur la réception des films, la diffusion de ces films à la période d'après-guerre. Parler dans un dernier chapitre de la période de 1946, qui finalement va donner aussi l'idée d'un changement de point de vue du public.
Alors, pendant la guerre, il y a quand même une baisse du nombre d'écrans disponibles et de salles susceptibles de fonctionner pour des tas de raisons. D'abord parce qu'on a des territoires qui sont entièrement occupés par l'ennemi, que par ailleurs, un certain nombre d'installations manquent de personnel qui a été réquisitionné et qui est au front parce qu'on manque tout simplement d'électricité, etc. Il n'empêche que toute occasion est saisie et ça, on a une chance extraordinaire d'avoir accès à des tas de journaux intimes qui ont été écrits par les soviétiques pendant cette période, avant, après, etc., qui ont été mis en ligne grâce à un projet extraordinaire initié par un de nos collègues en Russie qui s'appelle le projet Progito. Le vécu, ce qui a été vécu, et qui permet d'avoir accès à tout un tas de réflexions de simples
spectateurs. Toujours en ligne aujourd'hui.
En ligne aujourd'hui. Ce qui va se passer dans l'après-guerre, c'est d'abord un retour à la normale, un changement de type de film, mais aussi l'arrivée des films soviétiques dans des territoires où ils étaient méconnus, peu appréciés d'une manière générale, à savoir dans les pays qui ont été libérés par l'armée rouge. Là, les collègues dans les différents pays, disons depuis la fin du bloc de l'Est, depuis 89, se sont beaucoup employés à réfléchir à la façon dont cette soviétisation avait eu lieu. Et ils ont publié des documents ou des analyses, mais beaucoup de documents qui sont absolument passionnants. Je pense à des ensembles publiés par des collègues en Hongrie, en Allemagne et en Pologne, qui montrent avec quelles difficultés, en 1948-1949, ce cinéma soviétique finit par s'imposer.
Votre équipe a quand même travaillé sur un certain nombre de films soviétiques. J'ai compté 186. Quel travail de recherche, finalement, et de sélection ça représente pour un volume comme celui-ci? Et qu'est-ce que révèle ce corpus sur la diversité
Absolument.
Du cinéma soviétique en guerre?
Alors, c'était un des objectifs de l'ANR, c'est-à-dire de sortir des quelques grands films de guerre produits pendant la guerre, connu des spectateurs occidentaux. Et de montrer aussi, et de discuter, et de travailler sur la production des longs-métrages documentaires, de travailler sur les formats courts, mais aussi de s'intéresser aux films de formation militaire, et disons d'ouvrir vraiment au maximum la palette et la montrer.
Merci beaucoup Valérie Posner. Votre travail permet de mieux comprendre une période méconnue de ce cinéma soviétique qui a été à la fois un outil de mobilisation, un espace de création. Merci à vous chers auditeurs. Talim s'anime.